Bonjour à tous, nous voici à nouveau rassemblés autour de cette table pour l'heure du carillon, cette émission mensuelle présentée par des chrétiens du Villefranchois. Et donc aujourd'hui nous allons parler du rire, peut-on rire de tout, le rire et l'humour, des questions de ce genre qui se sont imposées à nous. Alors autour de notre table il y a
Bernard Lauriac. Bernard Lauriac qui fait beaucoup de choses, mais qui se régale dans cette émission.
Bonjour, je suis Émilie et je suis heureuse d'être parmi vous ce matin sur CFM Radio. Je suis bien au chaud parce que dehors il fait frisquette.
Très bien, et moi c'est Didier donc. Prêtre à Villeneuve. Voilà, donc quand Bernard, c'est lui qui a eu l'idée de cette émission, j'ai regardé un petit peu. Alors cette émission, l'idée de ce thème est venue du numéro spécial de la Croix du week-end dernier sur le rire dans l'Église. Peut-on rire, voilà, et rire de Dieu, rire de l'Église, rire de nos situations. Donc on a tous lu cet article et on l'a sous les yeux. Et puis moi, de mon côté, après j'ai regardé un peu sur Internet, mais j'avoue que cela demanderait de travailler beaucoup plus que je ne l'ai fait, parce que j'ai juste parcouru des choses. Parce que le thème est large et intéressant. Alors, le rire. Le rire, c'est un réflexe. Un réflexe qui se manifeste par un enchaînement de petites expirations saccadées, accompagnées d'une vocalisation inarticulée et plus ou moins bruyante. Voilà, ça c'est le rire. Hein ? Alors, d'où vient le rire ? Rabelais disait « Le rire est le propre de l'homme ». Or, il s'avère qu'aujourd'hui, on a fait des études pour s'apercevoir que certains animaux, face à des stimuli sur leur peau, pouvaient rire, des rats, des primates. Mais, et donc, c'est sans doute, il faudrait dire que c'est l'humour qui est le propre de l'homme, et que le rire est déclenché soit par des stimulations physiques, soit par un contentement du cerveau. Mais il y a plusieurs sortes de rires. Il y a des bons rires, l'éclat de rire, le rire joyeux, puis il y a des mauvais rires, le rire ironique, la méchanceté, comme ça. Donc, il faudrait parler de tout ça, et c'est un peu long. Donc, l'humour, dans la Croix, on a lu ça, je crois, hein, l'humour, il y a ces deux mots, hein, humilité d'un côté et amour de l'autre. Voilà, donc il n'y a pas d'amour sans humour, et c'est vrai que l'humour peut déclencher le rire, du bon rire. Et on va essayer aujourd'hui de s'attacher au bon rire. Et c'est Bernard qui commence, voilà.
Oui, alors, j'avoue que j'ai lu un livre un peu difficile d'un philosophe qui s'appelle Jean Kelevitch, qui s'appelle L'ironie, mais il parle aussi de l'humour. Et l'humour, lui, il dit, c'est un pont entre des personnes qui pensent autrement. C'est un chemin pour désamorcer les tensions, mais ça rend la vie plus légère, parce que derrière le sérieux, il y a des pièges cachés. Et c'est pas toujours lénifiant. Quelquefois, ça va jusqu'à l'irrévérence, la provocation. Nous le verrons avec dans les évangiles, Jésus utilise l'humour juif qui joue avec les mots, avec les situations. Il a le sens de la répartie, hein, Jésus. Il s'appuie sur la surprise, les contrastes, les comparaisons, les paradoxes, l'inversion des rôles, les images exagérées. Donc, mais ça nous incite, à faire du christianisme une religion de la joie, une religion qui libère des angoisses, une douce folie. Et je crois que le catholicisme est plus joyeux que le protestantisme. Parce qu'ils sont austères, les protestants, hein. Même si Calvin, qui a eu une figure quand même assez austère, hein, il a fait quand même un petit bouquin sur les reliques. il s'est moqué des reliques de
voilà, on rigole, voilà, c'est bon.
Des reliques sur la Sainte Croix, parce que au Moyen Âge, des bouts de la Sainte Croix, il y en avait partout. C'est comme aujourd'hui la drogue. Ça fait du fric, mais au Moyen Âge c'était pareil. Hein, on a exagéré sur les reliques.
Donc quand même, les reliques de la Sainte Croix avaient des effets moins négatifs que ceux de la drogue aujourd'hui. Oui, ça, il faut quand même remettre les choses à leur place.
Tout à fait. Donc je dis heureux ceux qui rient, et je crois que sous les voûtes de nos églises, on manque d'éclats de rire. J'avoue que je crois que de temps en temps, il faut sourire. Je me rappelle que j'avais une fois ma petite fille au mercredi des cendres, et il y a un curé qui a dit l'homme n'est que poussière, et je lui ai dit d'où l'importance du plumeau. Donc
voilà, on peut rire de beaucoup de choses, mais un petit mot, toi, tu vas rajouter peut-être par ton métier même, oui.
Du rire thérapeutique. C'est vrai qu'on dit que le rire guérit de la déprime. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui rient très peu, qui sont toujours le visage fermé. Or, le rire, en plus, est communicatif, et quand on rit, souvent, ça provoque le rire des autres. Mais le rire, c'est... Oui, ça permettrait de sécréter dans notre organisme des substances qui renforcent les défenses immunitaires. Et ça, je veux bien le croire, oui. Oui.
Donc, il faut des infirmières souriantes.
Souriantes, oui. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir de l'humour, même avec des patients, hein, c'est important. Parce que ça permet de dédramatiser les situations. Oui.
Alors, tu dis que le protestantisme est un peu plus austère, c'est vrai. Je ne crois pas pour ça qu'il ne soit moins joyeux. Mais il y a eu aussi dans notre Église, pendant longtemps, tu sais, toute cette vague du dolorisme, de la morbidité, des choses comme ça et tout. Et c'est vrai que c'était un empêcheur de rayonner de la résurrection. Tu sais. Et Nietzsche le disait, les chrétiens n'ont pas des têtes de ressuscité, quoi, des têtes heureuses, joyeuses, rayonnantes. Mais ça, c'est vrai que c'est un problème aussi de notre témoignage. Et le rire aussi, ou l'humour plutôt, parce que parlons d'humour, l'humour et la poésie vont bien ensemble, parce que pour dire des choses importantes, parfois il faut passer par la poésie. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais...
Ah, tout à fait. L'ironie est plus grinçante que l'humour. Et puis il y a aussi le gros rire. Je pense à certains films de Fernandel, vous rappelez, Don Camillo et Pépone, ou bien Louis de Funès, là, qui tombe dans la fosse au chewing-gum, dans le Rabbi Jacob.
Oui. Ouais.
Donc, là, c'est...
Mais c'est vrai qu'on peut rire de tout, je crois, mais on ne peut pas se moquer de tout. Le problème, c'est ça, c'est que quand le rire devient moquerie, c'est-à-dire qu'il est là pour écraser l'autre, pour humilier l'autre. Alors là, ça peut pas aller. C'est pour ça qu'humour, il y a cette partie d'humilité. Je vais vous lire un petit conte qui vient d'Elder Camara. Voilà, pour dire que voilà la joie, la poésie, la manière autre de voir les choses de la vie, mais on y reviendra tout à l'heure à la fin de l'émission. Dans l'autobus bondé, que dis-je, débordant, l'attention était attirée par un enfant qui, avec d'infinies précautions, tenait dans sa main un petit bout de bois. Une dame n'y tint plus. Elle lui demanda « Pourquoi tant de précautions pour ce bout de bois de rien du tout ?» Il expliqua « J'amène une petite fourmi, une grande amie. C'est son premier voyage en autobus. » Combien auront compris tout ce qu'il y avait de poésie et d'humanité chez ce gosse ? Je ne le quittais pas des yeux. Quand il descendit du bus, je le suivis. J'ai senti qu'avec lui, je pourrais bavarder. Je lui expliquais que moi aussi j'aime bien les petites fourmis. Et je lui racontais ce qui s'était passé lors du seul malentendu qu'il y eut jamais entre elle et moi. Une nuit, les petites fourmis de chez nous avaient dévoré notre rosier. Le lendemain, j'ai attrapé Sonia, une petite fourmi rousse, une des plus intelligentes que j'ai jamais rencontrées dans ma vie. Je ne l'ai pas serrée avec colère, car Dieu me protège bien contre la colère, mais je la tenais avec fermeté. Sa petite patte tremblait et son cœur était prêt à éclater tellement il battait fort. Je voulais savoir pourquoi elles avaient dévoré mon rosier en une nuit. Petite Sonia m'a répondu « Vous croyez, monsieur, que vous êtes les seuls à aimer les roses ?» Je fus d'abord pris de court, mais ensuite j'ai répliqué « La belle façon d'aimer en mangeant. » Mais Sonia me fit presque mourir de honte quand elle me demanda « N'est-ce pas ce que vous faites lorsque vous communiez ?» Je lui fis mes excuses et la libérai avec d'extrêmes précautions en la déposant sur le sol. Pendant 3 jours, toutes les fourmis me firent la tête. N'y tenant plus, je fis signe à petite Sonia et lui demandai de m'aider. C'est ainsi que j'ai enseigné aux fourmis, par l'intermédiaire de Sonia, à humer les roses au lieu de les manger.
C'est très
magnifique. Voilà. L'histoire continue un petit peu. Donc je vous propose, là, il y a presque 10 minutes que nous parlons. Déjà, on va écouter une chanson. Félix Leclerc, Le Petit Bonheur. C'est ça, je crois, oui.
C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier. Monsieur, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade. Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis sous mes haillons. J'ai dit, faut pas qu'il meure, viens tendre dans ma maison. Alors le petit bonheur a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson. Mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal, tout fut oublié. Ma vie de désœuvré, j'avais dégoût de la recommencer. Quand il pleuvait dehors ou que mes amis me faisaient des peines, je prenais mon petit bonheur et je lui disais, c'est toi ma reine. Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons, c'était le paradis, ça se voyait sur mon front. Or un matin joli, que je sifflais ce refrain, mon bonheur est parti, sans me donner la main. J'eus beau le supplier, le cajoler, lui faire des scènes, lui montrer le grand trou qu'il me faisait au fond du cœur. Il s'en allait toujours, la tête haute, sans joie, sans haine, comme s'il ne pouvait plus voir le soleil dans ma demeure. J'ai bien pensé mourir de chagrin et d'ennui. J'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit. Il me restait l'oubli, il me restait le mépris. Enfin que je me suis dit, il me reste la vie. J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes guenilles. Et je bats la semelle dans des pays de malheureux. Aujourd'hui quand je vois une fontaine ou une fille, je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux.
Voilà, chers amis, nous sommes sur CFM Radio 90.2 et nous passons aussi sur Radio Présence. Donc nous continuons notre émission sur ce rire, ce bonheur, cette joie, cet humour. Et on va aborder un deuxième volet. Vous voyez, quand je vous ai dit qu'il y aurait bien des choses à dire, on n'a pas été, mais on n'a pas été très prolixe, mais il y a tant de choses qui pourraient être dites et réfléchies. Là, on va simplement maintenant parler un peu du bonheur, de la joie de l'Évangile, comme dirait le pape François. Un peu les traits d'humour dans l'Évangile. Et il y a un petit bouquin qui vient de sortir, qui s'appelle « L'humour des Évangiles » de Élise Kérus, aux éditions Temps Présent. Et c'est à partir de ce livre que nous allons vous donner quelques petits flashs de cette joie, de ce bonheur, de cet humour de l'Évangile.
Alors, j'ai sélectionné quatre passages. La femme adultère, Nicodème, Emmaüs et Pierre sur le lac de Tibériade. Il y a aussi de l'humour dans l'Ancien Testament. Je pense notamment, vous vous rappelez peut-être quand Abraham et Sarah, sa femme, reçoivent les trois visiteurs et Sarah avait, je crois, plus de 90 ans et ils annoncent à Abraham qu'elle va avoir un enfant. Et Sarah se met à rire. Et donc, évidemment, elle y croyait plus, la malheureuse.
Mais tu sais d'ailleurs que le mot hébreu d'Isaac veut dire l'enfant du rire. Voilà, l'enfant du rire, Isaac, le mot de le prénom du fils d'Abraham et de Sarah. Oui, voilà.
Alors, j'en arrive à la femme adultère.
Tiens, encore un petit mot, si tu permets, sur l'humour. Je le citais dimanche dans l'homélie, l'étoile des mages vient un petit peu de la prophétie de ce voyant Balaam, qui était un voyant, un païen, dans l'Ancien Testament, et dont l'âne refusait de marcher pour lui montrer le bon chemin. Voilà, et à l'âne arrière, voilà, l'histoire de l'âne de Balaam. Il y a plein de petites choses comme ça.
Tout à fait.
Voilà.
Alors, j'en arrive à la femme adultère. Je lis. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu ? » Il parlait ainsi dans l'intention de lui tendre un piège pour avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à tracer du doigt des traits sur le sol. Comme ils continuaient à lui poser des questions, Jésus se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Et s'inclinant à nouveau, il se remit à tracer des traits sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils se retirèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés. Et Jésus resta seul. Comme la femme était toujours là au milieu du cercle, Jésus se redressa et lui dit « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné. » Elle répondit « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va désormais, ne pêche plus. » Donc, ces pharisiens qui s'en vont, là, on les met devant... leur responsabilité, parce qu'effectivement tout le monde se sent pécheur et bien entendu ça les a mouchés complètement. Il y a d'autres passages. Je sais pas si Didier,
oui,
tu veux commenter.
Non, moi, ce qui me plaît bien, c'est que ils partent en commençant par les plus âgés. C'est-à-dire que le plus âgé, il y a deux lectures de cela. Ou tu te dis, je suis plus âgé, donc j'ai davantage commis de fautes que les autres parce que ma vie a été plus longue. Pourquoi pas? Ou alors t'es plus sage et tu te dis, ben ma vie n'a pas été si limpide que ça. Voilà, c'est la raison pour laquelle il pouvait partir. Et bon, enfin, on dit des choses comme ça. Je sais. Tu parles aussi de la belle-mère de Simon Pierre?
Non, mais on pourrait en trouver.
Parce que vous savez, l'histoire, c'est l'évangile où Jésus, il arrive chez Pierre et sa belle-mère est malade. Alors il y en a qui disent avec beaucoup d'humour que c'est à cause de cela que Pierre a renié Jésus parce qu'il avait relevé sa belle-mère. Voilà. Mais on peut dire n'importe quoi. Voilà, on peut rire de tout. Vas-y.
Alors moi, je partirai sur Nicodème. Je lis. En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme pourrait-il naître s'il est vieux ? Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né... de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je te dis, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. » Donc, ce pauvre Nicodème prend les choses au premier degré. Et évidemment, il se fait moquer de lui, parce que Nicodème était un pharisien, c'est-à-dire des maîtres en matière d'interprétation de la loi.
Et on te dit un notable. En plus, un notable qui vint de nuit trouver Jésus, de nuit, pour pas qu'on le repère. Voilà, c'est quand même dans l'évangile.
Alors, vraiment, il se fout de lui, et il lui dit, effectivement, que il nous faut renaître dans l'esprit, parce que on est assailli par le doute, on est assailli par le péché, une fois ou l'autre, hein, sauf Émilie qui est...
Non, mais toi, quand tu dis il se fout de lui, je dirais pas ça. Parce que, tu vois, il se fout de lui, c'est cette notion du rire que, ou de l'humour que je... Il lui permet, par cette réaction qui semble décalée, de prendre un peu de la hauteur et de voir les choses autrement. Je crois que avoir de l'humour, c'est regarder notre vie et regarder la vie des autres autrement, en prenant de la hauteur, de l'altitude. Et il le ramène à d'autres dimensions en disant « Mais attends, reste pas au ras des pâquerettes et prends les choses un peu différemment. Tu es en train de faire du Descartes avant l'heure, il faut renaître pour rentrer dans le sein de sa mère et tout ça. Non, c'est pas ça. Hein? Il faut naître autrement. C'est-à-dire donner un autre sens à ce que nous vivons plutôt que le balbutiement quotidien. Voilà, enfin, je crois que c'est ça plutôt. Hein?
D'accord. Oui. Tu as tout à fait raison. Après, il y a l'histoire de Pierre sur le lac de Tibériade. Vous savez que Jésus a marché sur l'eau et il dit à Pierre, viens. Et Pierre marche sur l'eau. Mais à un moment donné, la tempête se lève et il a la trouille. Et à ce moment-là, il s'enfonce et il crie au secours. Et Jésus lui dit, homme de peu de foi. Et il y a eu le même coup également quand sur le lac de Tibériade, il y a eu une grande tempête. Jésus dormait tranquillement dans la barque et tous les apôtres, morts de frousse, disent à Jésus, sauve-nous. Et là aussi, il leur dit, homme de peu de foi, qu'est-ce que vous craignez? Je suis avec vous. Donc, alors, ce qui est marrant, c'est que ce Pierre, qui est un homme du peuple, hein, un pêcheur qui était pas toujours dans la finesse, il en a fait le premier pape. Et ce qui m'a marqué, moi, c'est que aucun pape récemment n'a choisi le nom de Pierre. Oui. Il s'appelle Jean, il s'appelle
Paul.
Paul, il s'appelle Benoît, Clément, enfin plein de... Non, Jean-Paul.
Jean-Paul, pas de Clément, c'est le plus vieux Clément.
Clément, c'est au 19e.
Oui. Mais ils osent pas. Il y a quand même eu des papes Pierre, Pie.
Ça veut dire Pierre ?
Eh oui, Pie 12, c'est le dernier, c'est Pierre, Pie.
Ah, c'est Pierre.
Eh oui, voilà. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc, tu vois, c'est pas si vieux que ça. Hein. Oui, et donc, si tu veux, Pie XII, c'est le dernier pape qui porte le prénom de Pierre. Ouais. Mais là aussi, tu vois, on parle d'humour et on fait des blagues à partir de tout. On rit toujours un peu du malheur des autres et tout ça, mais sans s'en moquer, c'est ça. Mmh. Et quand on va en Terre Sainte, on raconte cette blague à propos de cette marche sur la mer. Voilà. Un jour, c'est des pèlerins qui arrivent auprès du lac de Tibériade et comme ça se fait lors des pèlerins, on fait un tour en bateau sur le lac, voilà, et puis on évoque ces textes que tu viens de dire sur le lac de Tibériade, et un jour quelques pèlerins arrivent et ils demandent à passer, et le passeur, là, le batelier leur demande un prix exorbitant. Et les gens disent, mais attendez, c'est beaucoup trop cher, et pour justifier son prix, le batelier dit, mais vous savez, c'est sur ce lac que Jésus a marché. Et les pèlerins de répondre, oh, ben avec ces tarifs, c'est pas étonnant. Voilà. Vous voyez. Donc on peut rire de toutes ces choses-là. Hein.
Vous voulez que je vous raconte la mienne?
Allez, vas-y.
Sur le même registre. C'est donc Jésus et ses apôtres sur le lac de Tibériade. Et Thomas sent qu'il est en train de... Il marche donc sur l'eau. Et Thomas sent qu'il est en train de s'enfoncer. Et il crie vers Jésus. Jésus, écoute, regarde, sauve-moi. Je suis en train de m'enfoncer, je vais me noyer. Jésus tourne son regard vers lui et lui dit « Thomas, la foi ». Bon, il continue à avancer. Puis de nouveau, Thomas, il sent bien qu'il est en train d'avoir de l'eau jusqu'au genou. Jésus, Jésus, je vais me noyer. Et Pierre est agacé, il lui dit, oh, mais Thomas, tu nous agaces, tu n'as qu'à faire comme tout le monde, marche sur les cailloux.
Voilà. Et c'est ainsi. Mais n'empêche que ces petites histoires révèlent toujours quelque chose de, du lieu dans lequel nous nous situons pour vivre notre foi, tu vois, notre foi en Christ. Voilà, mais ça pourrait, on pourrait alors encore aller beaucoup plus loin. Est-ce que tu voulais aborder un autre?
Oui, un dernier passage.
Voilà.
Mais ce qui est quand même tout à fait intéressant, c'est que de la naissance de Jésus à sa mort, il y a toujours des traits d'humour. Parce que quand même, le roi des Juifs sous forme de, d'un enfant, c'est quand même assez paradoxal, hein, c'est cet enfant qui va nous sauver. Et sur la croix, Jésus dit « pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est aussi un trait d'humour. Et on pourrait on pourrait prendre plein d'exemples où constamment, très subtilement, Jésus fait réfléchir les gens par la surprise, par des rencontres, par toutes sortes de choses qui nous poussent, si on lit l'Évangile, à nous remettre en question.
Par un propos décalé par rapport à la manière dont on réagirait spontanément. Voilà, Jésus nous renvoie toujours en extérieur. Alors, c'est vrai que dans l'Évangile, il y a des fêtes, il y a Cana, il y a toujours l'exemple des noces, de les enfants qui jouaient sur la place, enfin tout ça, ça peut rejoindre d'ailleurs la parabole que j'ai lue de Elder Camara, ces enfants qui jouaient sur la place et avec lesquels on n'a pas voulu danser, et puis voilà, des choses comme ça. Il y a la joie de l'Évangile, mais ce n'est pas un rire de fuite ou un rire de voilà. C'est une exultation intérieure et plus profonde, et c'est sans doute là qu'est la source de la vraie joie. Ce qui ne doit pas empêcher non plus le rire et l'humour. On va écouter.
Alors sur Emmaüs.
Vas-y, allez. Emmaüs. Et après on écoute une musique.
Alors sur Emmaüs, je ne sais pas si je lis tout parce que c'est assez long Emmaüs.
Ah oui, tu prends que. Alors Emmaüs, voilà, je résume si tu veux le
oui,
texte.
Oui, alors parce que honnêtement, il y en a une bonne page
voilà,
là.
Oui, hein. Oui, donc je résume le texte. Après la mort de Jésus, il y a deux disciples qui sont un peu dépités et qui rentrent chez eux avec plein de tristesse. Et en chemin, il y a quelqu'un qui les rejoint. Et ce quelqu'un, ils ne savent pas qui c'est, bien sûr, et qui leur dit, mais pourquoi vous avez cette tête-là? Pourquoi vous êtes triste? Et bien voilà, tu ne connais pas ce qui s'est passé à Jérusalem? Et ils leur disent ce qui s'est passé. Et lui, Jésus, il essaie d'ouvrir leur cœur et leurs yeux avec justement encore un autre regard, en partant à la fois des événements vécus, de leur vie, et de ce que dit la parole de Dieu. Et ils vont comme ça jusqu'à l'auberge, oui.
Oui, mais alors ce qu'il y a de marrant quand même, c'est que c'est les disciples d'Emmaüs qui expliquent la résurrection de Jésus.
Oui, oui, oui.
Parce qu'ils racontent qu'il y a des femmes qui ont raconté
voilà,
qu'ils
étaient
au tombeau.
Voilà.
Alors donc, c'est quand même marrant que...
Oui, oui, enfin il y avait les premiers témoins de la résurrection, et ça c'est vrai.
Ils expliquent qu'on dit qu'il est ressuscité.
Les premiers...
Jésus à côté de
voilà, le premier témoin de la résurrection, ce sont des femmes, et là c'est encore une histoire entre hommes qui se passe, bon, peu importe. Et ils avancent, et donc Jésus leur montre dans les Écritures, comme dit le texte, tout ce qui le concernait. Mais ils sont encore un peu aveugles, ils ne sentent pas, ils sont pris dans leur tristesse, dans leur sentiment un petit peu morbide, comme ça, ils avancent, un peu, ils sont acculés à une impasse de non-sens, là, voilà, ils comprennent pas.
Parce que même parfois, quand on lit l'Écriture, c'est l'exemple des scribes qui indiquent à Hérode qu'il va naître à Bethléem. Mais pour autant, ils ne se déplacent pas. Hein,
non.
C'est des mages qui y vont.
Donc, alors, voilà. Et puis, donc, ils arrivent à cette auberge.
Et c'est la fraction du pain qui leur permet...
Qui va ouvrir leurs yeux.
Ça, c'est finalement l'Eucharistie qui est essentielle.
Voilà. La fraction du pain qui ouvre leurs yeux et surtout leur cœur.
Et leur cœur, oui.
Et puis, cette fraction du pain, c'est la force pour la route, pour continuer le chemin, parce qu'ils repartent à Jérusalem pour dire aux autres, ça y est, on a vu. Voilà. Et eux aussi, après les femmes, deviennent témoins de la résurrection. Voilà, donc si vous voulez, maintenant on écoute une petite plage de musique, l'histoire d'une respiration.
Danser sur ma musique, on finirait par y trouver des pas. J'ai fait 100 000 miles par les airs et par les eaux pour vous dire que le monde a commencé par une sorte de tam di le dam dam di le di le dam dam di le di le dam. Si on voulait danser sur mes paroles, on finirait par y trouver des pas. Arrivé en ville, j'ai voulu dire à chacun ce que j'avais dans mon sac, mais c'était ma tête pleine de tam-di-li-lam-dam-di-li-li-li-li-li-li-li-li-dam-dam-di-li-li-li-dam. Moi j'ai voulu danser sur ma musique, mais on m'a dit ton pas n'est pas d'ici. Quand j'étais dans l'île, sous le vent des vérités, je ne savais point la ville où j'ai compris l'importance de tam-di-li-lam-dam-di-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li Quand mon sac de riz sera vidé, je serai un pareil à vos pareils, mais perdrai-je souvenance de... Si on voulait danser sur mes paroles, on trouverait ma source et mon tambour. Mais je suis tranquille, je connais la source même où battait le cœur de l'homme sur des pas qui sonnaient comme... Si on voulait danser sur ma musique, on finirait par y trouver du cœur. Y aura toujours un pas sur ma musique, car c'est mon cœur qui danse à l'heure du jour. Ah, si vous voulez danser sur ma musique, il vous suffit d'en écouter les mots.
Eh bien voilà, nous reprenons sur le cours de notre émission sur la joie, l'humour, le rire. Donc on est sur CFM Radio 90.2 et sur Radio Présence. Et donc nous sommes trois ce matin, trois pour des chrétiens du Villefranchois pour essayer d'aborder ces questions. Et Bernard, oui, veut revenir avec
quelques textes. Oui, moi je souris aussi parce que il a recours à des images parfois exagérées. Par exemple. Sur les pour montrer que la foi est quelque chose d'essentiel, il dit, si vous avez une foi profonde, dites aux montagnes de se jeter dans la mer.
Aux arbres. Dites aux arbres, va te jeter dans la mer et il irait. Oui, oui.
Mais même les montagnes, je crois. Il me semble que si.
Ah, je peux pas te le confirmer.
Bon, enfin, peu importe. Et puis il dit aux pharisiens, les publicains et les prostituées seront avant vous au paradis. Il y va fort quand même. Hein,
C'est-à-dire que Jésus veut toujours remettre les bien-pensants, les bien-disants à leur place. Mmh. À leur place, c'est-à-dire au niveau où ils en sont pour essayer d'élever et en disant que tout homme, finalement, est image de Dieu. Et que ce qui est important, c'est de faire émerger cette image de Dieu du cœur de chaque homme, quelle que soit sa vie, quels que soient ses problèmes, quels que soient ses combats ou ses déviations. Mmh. Hein, il faut faire émerger cette image de Dieu.
Alors il utilise aussi des paradoxes pour déconcerter, je dirais, les logiques trop sûres. Par exemple, avant la scène, il y a les lavements des pieds. Et Pierre dit jamais tu me laveras les pieds. Il est bon. On pourrait parler aussi du sabbat, le sabbat qui est pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et aussi, moi, ce qui m'a amusé beaucoup, c'est la fugue que fait Jésus quand il a 12 ou 13 ans. Hein, ils partent en pèlerinage et puis les parents s'aperçoivent qu'il est plus là et ils le retrouvent finalement au milieu des docteurs dans le temple. Donc, il a fait presque une fugue, Jésus, et il fait en plus la leçon à ses parents. Hein, il leur dit... exactement, rappelle-moi, vous savez pas.
Je me dois aux affaires de mon père.
Je me dois aux affaires de mon père.
Et oui, il a eu un comportement d'ado, c'est normal.
Oui. Voilà, donc c'est. Donc, et il dit même, quand il se trouve à Nazareth, il dit. Sur son père et sur sa mère, il dit, si vous n'haïssez pas votre père et votre mère, vous n'entrez pas dans le royaume des dieux. C'est très fort quand même. Hein. Mm-hmm. Alors, je pense que c'est pour couper court à de bonnes aubaines pour les siens, un prétexte pour se dérober au refus des alibis familiaux. Il y va fort.
C'est-à-dire que ce texte-là, qui peut paraître choquant, hein, il faut préférer à tout, c'est pas que... Parce que il n'oublie pas le décalogue, et tes parents tu honoreras. Donc il peut pas aller au contraire du décalogue, donc des 10 commandements, honorer son père et sa mère, et puis après dire tu dois haïr ton père et ta mère. Non, tu dois haïr dans l'autre ce qui t'empêche de prendre ton envol. Voilà. Et son envol, lui, c'est de faire la volonté du père. Tu vois, parfois à l'encontre un petit peu des choses et puis des réalités humaines, c'est ça, tu vois. Haïr, c'est finalement se libérer de tout esclavage qui nous retiendrait prisonniers. C'est nous préserver de ce que les relations familiales peuvent avoir d'enfermant, hein, de réduit. D'étouffant, voilà, ouais. C'est ça, d'étouffant, voilà ce qu'il veut dire.
Alors, moi, je voudrais passer ensuite, donc, de l'Évangile à l'Église.
Oui.
Alors, il y a une chose qui m'a beaucoup amusé, c'est les Béatitudes de Joseph Folier. Je sais pas si vous les connaissez.
Oui.
Je vous en lis quatre. Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de s'amuser. Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d'une taupinière. Il leur sera épargné bien des tracas. Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter, ils en apprendront des choses nouvelles. Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir, ils éviteront bien des bêtises.
Mais oui, on connaît ces paraboles, mais ces béatitudes, pardon. Mais c'est vrai que parfois on se prend tellement, enfin moi, je veux pas dire pour les autres, mais ça doit être un peu pareil quand même. Il m'arrive de me prendre tellement au sérieux que je manque de recul sur moi-même. Et c'est vrai que l'humour, la prise de distance, c'est finalement une spiritualité. C'est une vraie spiritualité. Donc, c'est-à-dire à la fois de l'humilité, pas se prendre au sérieux, et donner beaucoup d'amour. Je reviens toujours à ça, parce qu'il n'y a pas d'amour sans humour, et humour, je répète, ce que je disais au début, c'est humilité et amour. Voilà. C'est un mélange des deux. Et quand on écoute des béatitudes comme ça, eh bien, ça nous donne un peu de prendre du recul par rapport à nous-mêmes et par rapport aux gestes que nous posons.
D'ailleurs, dans la croix qui est datée du 31 décembre, il y a un article qui est consacré à l'humour dans l'Église.
Oui, c'est celui dont je parlais de ce
voilà.
numéro-là.
Voilà. Donc, il y a une phrase dans cet article qui dit « Sur le chemin de la sainteté, l'humour exerce une fonction thérapeutique. Il sauve le croyant de toutes les pathologies de la religion, le dogmatisme, le rigorisme, le volontarisme, l'autoritarisme et l'intolérance. » Et je trouve que c'est bien vrai.
Oui. Donc, tu vois, faudrait que tu reprennes tout ça, de quoi ça nous sauve. Parce qu'il faut bien que les gens entendent, parce que ça me semble important. Reprends ça, les...
Le dogmatisme,
oui.
Le rigorisme, le volontarisme, l'autoritarisme et l'intolérance.
Il y a un livre qui vient de paraître de Lucette Scarafia. Et c'est une historienne, je crois, qui est au Vatican. Et on lui a demandé d'assister en qualité d'auditrice au synode sur la famille. Et alors, elle a fait un livre là-dessus. Et dans ce livre, je vous donne que l'intitulé de ces quatre chapitres. Sans histoire, sur où elle met en cause la posture de l'institution. Sans histoire, sans femme, sans sexe et sans avenir. C'est dur, mais quand même, elle a été choquée parce que son livre est intitulé « Au dernier rang ». Dans une assemblée où il n'y avait que des hommes, ils ont eu le culot de parler de l'avenir de la famille. Bon, avouez quand même que les cardinaux au Vatican...
Je ne savais pas que tu allais... Enfin, si, je le sais depuis ce matin, quand on a un peu préparé l'émission, mais parce que j'aurais bien amené comme chanson, autrement, tu sais, le poète a toujours raison, la femme est l'avenir de l'homme, tu vois, mais c'est vrai aussi dans l'Église. Voilà.
Hein? Non, mais parce que quand même, il faut le reconnaître... Enfin, les femmes jouent un rôle essentiel dans l'Église.
Bien sûr.
Les catéchistes, c'est essentiellement des femmes.
C'est pour ça que quand on dit que l'Église était misogyne et tout, moi je crois que là aussi il y a par rapport à un monde très macho, mais qui le reste un peu et malgré tout, dans un monde très macho, c'est quand même un trait aussi, un clin d'œil de la part des évangélistes et du Seigneur et de Dieu, je pense, que les premiers témoins de la résurrection soient des femmes. C'est ça. Alors ça, c'est un sacré clin d'œil. Et regardez la place que l'on fait à la Vierge Marie dans l'Église, c'est aussi de sacrés clins d'œil. Alors, moi, j'ai pensé aussi, quand tu m'as dit, comme d'habitude, tu choisiras quelques disques, quelques chansons. Alors, je cherchais, parce que je ne savais pas trop. Et j'ai pris un disque, mais je ne voudrais que ça choque personne. Vous savez, c'est comme l'histoire un peu de Charlie Hebdo, il y a 2 ans. Tu vois, on en parle tellement aujourd'hui. Moi, personnellement, j'étais scandalisé par le fait de cet attentat. Mais ça ne veut pas dire que je cautionne et que j'approuve tout ce que dessine ou que ce que publie Charlie Hebdo. Non, je le cautionne certainement pas. Il y a des choses qui me semblent presque outrancières. Donc, et il y a une part de l'humour comme ça qui veut dénoncer de façon un peu outrancière, anarchique, un peu ces choses-là. La chanson que l'on va écouter, certains la connaissent, bien sûr, et je veux donner des précautions, c'est pas... Il faut sourire de cela. C'est une chanson de Brassens qui a été écrite juste après le Concile. Alors, écoutons.
Tempête dans un bénitier, le souverain pontife avec les évêques, les archevêques nous font un satané chantier. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, la messe nous emmerde. À la fête liturgique, plus de grande pompe soudain. Sans le latin, plus de mystère magique. Le rite qui nous envoûte s'avère alors anodin. Sans le latin, et les fidèles s'en foutent. Ô très sainte Marie, mère de Dieu, dites à ces putains de moines qui nous emmerdent sans le latin. Je ne suis pas le seul morbleu, depuis que ces règles sévissent, à ne plus me rendre à l'office dominical, que quand il pleut. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, la messe nous emmerde. En renonçant à l'occulte, faudra qu'ils fassent Tintin. Sans le latin, pour le denier du culte. À la saison printanière, suisse bedeau sacristain. Sans le latin, feront l'église buissonnière. Autre sainte Marie, mère de Dieu, dites à ces putains de moines qui nous emmerdent sans le latin. Ces oiseaux sont des enragés, ces corbeaux qui s'y rognent tranchent. La Seine est bonne vieille branche de la croix où ils sont perchés. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, la messe nous emmerde. Le vin du sacré calice se change en eau de boudin. Sans le latin, et ses vertus faiblissent. À Lourdes, c'est tout bien Parme, comme à Quimper Corentin. Le presbytère, sans le latin, a perdu de son charme. Ô très sainte Marie, mère de Dieu, dites à ces putains de moines qui nous emmerdent sans le latin. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, la messe nous emmerde. Le vin du sacré calice se change en eau de boudin. Sans le latin, et ses vertus faiblissent. À Lourdes, c'est tout bien Parme, comme à Quimper Corentin.
le presbytère sans le latin a perdu de son charme. Votre sainte Marie, mère de Dieu, lutteuse à ses putains, de moine qui nous emmerde sans le latin.
Voilà. C'est vrai que parfois aussi, aujourd'hui encore, la question se pose du latin ou pas du latin. Je ne veux pas entrer là-dedans, mais c'est pour vous dire que ce n'est pas pour un jugement, c'est juste un trait d'humour sur une situation oui. vécue en église. Bon, voilà, avec le style de Brassens dont oui. on connaît.
Léo Ferré a fait quelque chose dans ce style-là. Monsieur Toublan. Oui. Monsieur Toublan, c'est le pape.
Tu m'en as parlé, mais je ne connais pas. Oui. Alors voilà.
Alors c'est, il se moque. Du pape dans ses châteaux en Italie.
Ah oui.
Alors heureusement le pape François est resté dans l'hôtellerie, je crois,
Sainte-Marthe, oui.
À Sainte-Marthe. Donc
voilà, donc on continue, donc c'est la dernière partie de notre émission sur CFM Radio 90.2 et sur Radio Présence, et on voudrait parler, parce que c'est une façon aussi de voir le monde différemment, avec un autre regard, un peu d'humour et beaucoup d'amour, nous voulons parler un peu des bonnes nouvelles pour aujourd'hui. C'est vrai que si l'évangile est bonne nouvelle, est-ce qu'elle est bonne nouvelle pour aujourd'hui? On est dans un monde où souvent les médias, pour faire leur commerce, exercent une fascination au spectacle du mal. Et on a tendance à regarder tout ce qui va pas, à remuer le, à touiller dans la boue, le triste, le malheureux et tout. Or, il y a plein de bonnes nouvelles. Et puis, ça fait deux ou trois fois que je le cite dans des articles ou même à l'homélie. Il y a ce livre dont j'ai entendu parler il y a pas très très longtemps, il y a un mois ou deux que je veux acheter, mais il était épuisé chez le libraire. Michel Serres a écrit un bouquin, Darwin, Bonaparte et le Samaritain, aux éditions du Pommier, où il dit « Nous vivons dans un monde plus en paix que nous le croyons. » Que nous le croyons. Et il explique que finalement, le terrorisme, c'est vrai, c'est un drame, il ne faut pas le nier. La mort, et ce dont, surtout pour ceux qui sont touchés, la mort, la guerre, tout ça, c'est un drame. Mais il dit que finalement, c'est notre époque où il y a le moins de morts. Et par exemple, alors c'est vrai que ça choque aussi les gens quand on dit cela, mais on ne le dit pas pour choquer, on le dit pour avoir un autre regard. Bien, il faut savoir que le tabac fait plus de morts que le terrorisme. Mais donc on banalise le tabac, mais alors c'est vrai qu'il faut pas, c'est pas pour ça qu'il faut pas lutter contre tout ce qui tue l'homme et donc le terrorisme. Et notre monde, finalement, si on pose un autre regard, est plein de bonnes nouvelles, plein de bonnes nouvelles, et nous allons en évoquer quelques-unes ici.
Oui, alors la Croix a osé carrément, pour fêter peut-être la bonne année, rappeler les bonnes nouvelles de 2016. Alors j'en cite plusieurs. L'extrême pauvreté régresse de 10%, ceux qui gagnent moins de 2 dollars par jour. Il y en a moins qu'avant, grâce à la Chine et à l'Inde, je crois qu'il y a eu des progrès.
Pour expliquer aux gens, 2 dollars, aujourd'hui, c'est pratiquement 2 euros par jour. Donc imaginez vous vivre avec 60 euros, 70 euros par mois. Voilà, vous avez tout compris. Voilà, c'est...
J'ai vu ça à Madagascar, vraiment, mes collègues faisaient beaucoup plus d'heures, ils allaient enseigner dans beaucoup d'institutions pour permettre à leurs enfants d'aller à Atana suivre des études supérieures, parce que les chambres, c'est comme à Paris, ça coûte très cher, Atana. Bon, alors, il y a aussi les décisions de la COP 21 qui ont été confirmées. Ça, je crois que c'est fondamental, ces problèmes. Ensuite, les dons aux associations, ils ont augmenté de 4,5 milliards d'euros. Alors moi, j'ai de moins en moins confiance aux partis politiques, mais je trouve que les associations, elles font un boulot formidable. Et c'est à la base qu'il faut se remuer. Donc, ensuite, il y a un peu partout des bonnes nouvelles. Par exemple, l'accord de paix en Colombie avec les FARC. Il y a eu 50 ans de guérilla. Il n'y en a pratiquement plus en Amérique latine, des guérillas. Donc, la dernière, c'était en Colombie. C'est fini, ils ont signé la paix. le trou de, dans la couche d'ozone. Je me rappelle que on nous disait qu'il fallait plus utiliser les, comment ça s'appelait, c'est
les aérosols.
Les aérosols. Maintenant, la couche d'ozone, ça a perdu 4 millions de kilomètres carrés depuis l'an 2000, et ça évite 2 millions de cancers de la peau. C'est pas rien quand même. Hein. En médecine, le vaccin contre Ebola, il faut savoir qu'Ebola, ça fait 11 000 morts en Afrique centrale, en particulier en Guinée. Donc, on a fait... sur la polio est pratiquement éradiquée. Je crois que ça existe encore, je sais plus dans quelle faculté où ils ont vacciné, mais pratiquement c'est fini la polio. Les recherches sur la myopathie ont fait des progrès considérables.
Ah, si vous voulez, moi je pense que y a une phrase que je cite souvent qui n'est pas de moi, mais qui me paraît essentielle. Le chemin de la vie est semé d'obstacles et bordé de merveilles. Et aujourd'hui, nous avons tous tendance à buter contre ces obstacles et à être coincés par ces obstacles et à ne pas regarder les merveilles, et il y en a plein, ces bonnes nouvelles. Je crois que c'est une attitude profondément chrétienne pour combattre les obstacles et tout ce qui va mal, de s'appuyer sur ce qui va bien, sur ces bonnes nouvelles, sur cette solidarité entre les gens, sur la fête des voisins, sur le service rendu pour faire traverser la rue et tout. Et donc, il nous faut cette vision-là qui est une vision d'humour.
Parce que les gens sont terriblement pessimistes.
Tout à fait. Voilà. Et justement, pour lutter contre ce pessimisme...
Voilà, et puis on termine là.
Voilà, je vous signale l'émission Sacristie, que je trouve très intéressante, qui est diffusée sur France 2, tous les dimanches après le jour du Seigneur. Et vous verrez, ça dure pas très longtemps, une minute et demie. Et c'est l'histoire d'un prêtre et de son sacristain. Et c'est une vision humoristique de la vie de l'Église. Voilà.
Eh bien, écoutez, on va se quitter pour aujourd'hui. Non, pas encore. Ah, il me reste 4 minutes, elle me fait signe.
Alors, moi, je suis d'autres bonnes nouvelles.
Voilà, le bavard.
Voilà. Excusez-moi, j'avais cru qu'elle me disait qu'une minute. Alors continuons.
Par exemple, la mère d'Aral est ressuscitée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Mmh. Elle était réduite à presque rien, la mère de...
Ah, oui.
Les pêcheurs, ils avaient plus de quoi vivre. Le concile panorthodoxe, depuis 1054, il n'y en avait pas eu. Et ça, quand même les orthodoxes s'y mettent.
Mais tu vois, même ça allait si loin, dans notre diocèse de Rodez, puisque nous sommes du diocèse de Rodez, notre évêque nous a convoqués à marcher ensemble, c'est-à-dire un synode, pour réfléchir. Il y a 194 délégués qui se réunissent, qui vont passer 3 week-ends, le prochain week-end, là, samedi et dimanche prochain, pour réfléchir, si tu veux, à une autre manière de vivre l'Église et de vivre en Église. Plutôt que de se laisser abattre par le pessimisme, il n'y a que des vieux, il n'y a pas beaucoup de vieux, moi, je trouve, tu vois, parce que s'il y avait tous les gens de mon âge dans les Églises, elles seraient pleines. Quand on dit il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de vieux non plus. Mais pour essayer de donner un nouveau visage à l'Église, pour essayer d'avancer et voir les choses un peu positivement. Donc, pour cela, il faut un autre regard et un regard qui prend de la distance et donc de l'humour.
Et j'espère qu'on va en sortir vraiment, qu'on va bousculer la vieille dame, parce qu'elle en a bien besoin.
Exactement, exactement. tu avais une petite blague, toi, que tu avais vue sur la croix.
Oui, une petite histoire.
Voilà.
La rencontre de deux amis, un franciscain et un jésuite. Alors, ils sont tous les deux fumeurs et ils ont du mal à ne pas fumer pendant qu'ils prient au-delà d'un certain temps. Donc, ils décident de demander à leurs supérieurs respectifs la permission de fumer tout en priant. Et quand ils se retrouvent, le franciscain est en dépression. « J'ai demandé à mon supérieur si je pouvais fumer pendant que je priais et pour toute réponse, il m'a dit non. Le jésuite ne peut s'empêcher de rire. Mais moi, je lui ai demandé si je pouvais prier en fumant. » Et il m'a répondu, mais bien sûr.
Voilà. Une autre histoire entre un dominicain et un jésuite. Ils vont tous les deux voir la crèche. Et le dominicain lui dit, c'est ça la compagnie de Jésus,
oui.
Le bœuf et l'âne?
Alors ça fait partie. Voilà, maintenant il reste une minute. Je dois m'excuser pour mon portable qui a sonné. D'habitude je l'enlève. Et aujourd'hui j'ai oublié, voyez, et il a sonné maintenant.
Didier, voilà. Au-dessous de tout.
Voilà. Voilà, et bien il faut rire de cela. Donc on va se quitter maintenant aujourd'hui. On essaiera, je ne sais pas de quoi on va parler la semaine prochaine, on va y réfléchir maintenant, par la semaine prochaine, le mois prochain. On se retrouvera de toute façon. On écoute une dernière chanson pour se dire au revoir et en vous souhaitant à tous de bien finir le mois de janvier, puis de bien commencer le mois de février. Voilà.
À bientôt.
À bientôt.
Ce samedi soir, elle revenait de son usine, les bras chargés de billets bleus bien mérités. Sous les regards concupiscents de ses copines, le cœur joyeux vers son foyer, elle se hâtait. En la voyant, sa maman fut bien satisfaite. Elle lui dit, prenant son air des jours de fête, mets un chapeau, lave-toi les mains, faisons toilette. Ce soir, ma fille, nous allons bien nous amuser. J'ai fantaisie de mettre dans notre vie un petit grain de fantaisie. Youpi, youpi. Allons au cinéma du quartier. Ça serait folie de faire les frais d'une entrée, mais nous verrons la sortie. Youpi, youpi. C'est amusant de voir les gens qui en sortant ont l'air si tristes. Oh, 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 si tristes. Qu'on s'amuse en buvant une limonade. Oh là là, j'en suis malade. Cette semaine, y a pas eu d'heure supplémentaire, a dit le comptable en lui faisant son relevé. Parbleu, elle a passé du temps près de sa mère, malade après la limonade, comme vous savez. C'est samedi, elle est rentrée, l'humeur maussade, puis lasse de donner ses soins à la malade. Elle lui a dit, je vais chercher de la pommade. Mais le seuil franchi, insoucieuse, elle a chanté. J'ai fantaisie de mettre dans ma vie un petit grain de fantaisie. Youpi, youpi, moi j'en ai marre. Je vais à la foire puisque ma mère est toujours alitée. Pourquoi pas en profiter? Youpi, youpi, la voilà donc sur un cochon qui tourne en rond. Quelle joie de vivre, ha, 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 lénive. Albert qui est derrière, qui la serre et elle le laisse faire. Ouais. Cette semaine, y a pas eu de paye, sa mère est morte. Depuis mardi qu'elle lui a fermé les yeux. De leur logis, seul Albert a franchi la porte pour la remonter et pour lui présenter ses vœux. À son usine, on a mis une intérimaire pour lui laisser tout le loisir d'enterrer mère. Et à Albert qui l'accompagne au cimetière, quand le corbillard passe près de la gare, elle déclare: j'ai fantaisie de mettre dans notre vie un petit grain de fantaisie. Youpi, youpi, à 16h16, y'a un express pour cette tropesse. Faut qu'on se presse, j'ai du pèse, dis ça pour te mettre à l'aise. Youpi, youpi, les voilà donc partis tous deux pour d'autres cieux. Ah, quelle fille maman, ah, quelle fille maman. Puis vient le bel Armand, puis encore d'autres amants, puis un contrat au Soudan, flan.